Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au collège Jules Vallès pour cette émission de radio. Depuis quelques mois, la classe de 3e 3 du collège Jules Vallès participe à un atelier de radio en partenariat avec La Source, une salle de spectacle de Fontaine. Au sommaire de cette émission, Kylian et Adèle nous parleront d'égalité filles-garçons au collège avec nos invités Soline et Yves. Nous parlerons aussi de changement climatique avec Gabriel et Jade qui sont allés à la manifestation pour le climat. Mais tout de suite, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les élèves, l'orientation. C'est Ali et Raphaëlla qui vont nous présenter ce sujet. Et pour en parler, ils reçoivent Théo Dobrez et la principale adjointe, Madame Spataro.
Oui, merci Mickaël et Enzo. Nous allons effectivement parler d'orientation. Et pour cela, nous avons invité Théo Dobrez et Madame Spataro, assistante d'éducation et la principale adjointe de notre collège.
Mais avant de lui poser nos questions, nous allons écouter un petit extrait des interviews de Nicolas Masson, régisseur général, et Laurent Stahl, programmateur que nous avons rencontré lors d'une visite à La Source.
Je suis le responsable artistique de La Source et donc j'ai un travail qui est un peu multiple, qui consiste évidemment à faire le choix des artistes et des projets artistiques qu'on va accueillir à La Source, mais pas que, il faut aussi que tout ça rentre dans ce qu'on appelle un projet d'établissement.
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez choisi ce métier ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans la culture ?
J'ai un parcours un peu atypique, j'ai pas fait des études pour ça en fait. J'étais musicien, je fréquentais des gens qui travaillaient dans la musique et un jour m'ont dit on a besoin de gars pour soulever des caisses. Donc je suis allé sur un concert où il fallait décharger des camions, mettre le matériel sur scène et j'ai commencé comme ça. Puis après, au fur et à mesure, j'y ai pris goût, j'ai aimé cette atmosphère, cette ambiance de travail et j'ai commencé à travailler là-dedans en faisant vraiment tous les métiers. Et en parallèle, en tant que musicien, il a fallu aussi se structurer. C'est en faisant un peu tous les métiers qu'un jour je me suis retrouvé à organiser pour les autres et à aider les autres à mettre en place leurs projets. Alors, en tout cas, c'est pour vous dire qu'on peut être un élève très très moyen à l'école et on peut quand même faire une chouette vie avec un chouette métier. Ça, c'est important de le dire.
Moi, mon métier, donc, je suis régisseur général donc, de La Source à Fontaine, qui est donc une salle de spectacle où on fait du concert. Donc, mon métier de régisseur général, c'est en fait d'être une sorte de babysitter des artistes. C'est-à-dire que je vais m'occuper de tout pour leur venue à un concert à La Source. Voilà. Et une fois que le concert est terminé, et ben avec l'équipe intermittente, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur le spectacle, on démonte tout, on remet ça dans le camion de l'artiste et il est reparti pour un nouveau concert.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier et qu'est-ce que vous n'aimez pas ?
Ce que j'aime dans le métier, c'est le contact avec les artistes, le contact avec les techniciens, en fait le contact avec tous les métiers du spectacle. Moi, j'aime les horaires décalés aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un du matin, par exemple, donc je déteste me réveiller le matin tôt pour aller travailler. Et ben là, ce n'est pas le cas. Soit je fais des journées 10h, 18h pour préparer les concerts qui arrivent, soit je fais des journées 13h, minuit, voire 1h du matin, pour les jours de concert. Du coup, moi, ça me correspond bien en termes de rythme. Même si c'est un métier qui reste quelque chose d'atypique et un peu, pas marginal, mais un peu différent des autres professions, il peut s'installer aussi une certaine routine. Donc, il faut veiller à toujours garder l'énergie et à toujours être curieux, surtout des spectacles qu'on programme.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire votre métier ?
Il faut quand même avoir un esprit un peu bien organisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier des choses importantes. Tu traites 50 mails par jour. Tu as des gens sous tes ordres. Tu dois quand même bien les manager pour que tout se passe bien. En plus, on est dans le spectacle, donc moi, je m'oblige à garder une certaine un côté cool. Mais mine de rien, il faut quand même un peu être sérieux et faire les choses bien. Et je pense que c'est valable pour tous les métiers. Dans tous les métiers qu'on fait, il faut faire un métier qui nous plaise, pour lequel on a envie de se lever le matin ou en tout cas d'y aller, pas avec la boule au ventre. J'ai pas envie d'aller travailler, non. Moi, je suis content d'être là. J'aime aller travailler et je pense que c'est valable pour tous les métiers. Il faut aimer ce qu'on fait. L'épanouissement personnel passe par le choix du métier qu'on va faire et ne dépend pas du tout du salaire que ça va rapporter. C'est-à-dire que si vous êtes vendeur ambulant sur une plage et que ça vous éclate, eh bien faites-le. Si vous voulez être, trader à la bourse, même si c'est un truc que je ne comprends pas, eh bien faites-le. Mais ce que je veux dire, c'est que choisissez quelque chose qui vous plaît, pas en fonction du salaire, mais en fonction de ce que ça va vous apporter à vous-même en tant que personne.
Ou alors pour ces interviews,
Alors, Théo de Bresse et Madame Spataro, pour commencer, je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce que l'on vient d'entendre.
Alors, je partage tout à fait ce qu'on vient d'entendre parce que, effectivement, je crois que même si on est dans une société de consommation importante et on le voit même dans la cour du collège, hein, vous avez tous envie d'être habillés avec des marques, avec des logos. Et c'est vrai que cette apparence physique est très importante aujourd'hui et c'est une valeur qu'on véhicule. Mais effectivement, le salaire de l'épanouissement personnel, c'est vraiment celui qu'il faut rechercher. Parce que moi, je connais hein, dans mon entourage des gens qui gagnent peut-être 4 fois, 5 fois plus que moi. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont heureux. Donc, c'est vrai que le travail, on y passe la majeure partie de notre temps. Ça occupe toutes nos journées. Et si dans nos journées, on n'est pas pleinement satisfait de la place où on est et des gens avec qui on est, on peut vite perdre le sens qu'on a envie de donner à notre vie.
Pour continuer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et nous dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas ?
Alors déjà, c'est un métier que j'ai choisi tardivement. Donc, comme vous êtes sur le thème de l'orientation, je vais développer un petit peu. Moi, j'ai passé mon bac. Ensuite, je suis allée en fac de lettres modernes. J'ai arrêté au master, donc anciennement la maîtrise. Je n'avais pas du tout envie de passer les concours de professeur, qui était à peu près l'unique débouché d'une faculté de lettres modernes. Et j'avais envie, voilà, à 20 et quelques années, de gagner vite de l'argent pour être indépendante, avoir mon appartement, mes copains, etc. etc. Donc, j'ai été vendeuse de 24 ans jusqu'à 30 ans. J'ai à peu près tout vendu, du Quicksilver, des lunettes, des draps, de la déco... Voilà, et puis à 29 ans, j'ai été licenciée économique chez un opticien, donc qui avait mal fait ses comptes pour l'ouverture d'un deuxième magasin. Et ben là, c'était le chômage. Donc le chômage, c'est vraiment une dure période hein, pour les gens qui ont l'habitude de travailler. Et de là, ben, je me suis reprise en main. J'ai décidé de passer les concours qui étaient à ma portée, donc avec un bac plus 4. Donc, le premier concours que j'ai passé, c'est le concours de CPE, que j'ai préparé en même temps d'avoir un emploi de 35 heures par semaine d'assistante éducation dans un lycée. Et ce concours, je l'ai obtenu en 2 années. Ensuite, j'ai été CPE pendant 7 ans. Et au bout de la 7e année, j'ai passé le concours de personnel de direction, qui est un concours qu'on peut passer quand on a 5 ans d'expérience en tant que professeur ou cadre A de la fonction publique. Et voilà, et ce concours permet d'avoir les fonctions de principal adjoint, principal, proviseur adjoint, proviseur. Dans mon métier, ce que j'aime particulièrement, eh bien, je vais dire que c'est vous. Voilà, c'est la jeunesse, c'est l'espoir, c'est les sourires. Mais c'est surtout, je pense que c'est l'espoir que véhiculent les jeunes. Voilà, une certaine forme d'innocence et on a envie de vous aider sur votre parcours. Et ce que j'aime le moins, ce sont les réformes et les politiques successives où on finit par perdre le sens sur la route.
Quel conseil donneriez-vous à un collégien pour bien préparer son orientation ?
Alors, le conseil que je donnerais, c'est bien sûr de travailler à l'école, parce que malheureusement, je sais que c'est un âge où on n'a pas envie de travailler. On a envie plutôt de s'amuser, de faire des soirées, d'aller au ciné ou du sport, ou le soir en rentrant, bah, d'être sur son téléphone, sur sa PlayStation ou sur les réseaux sociaux. Mais quand on ne travaille pas, et surtout sur ce cycle-là du collège, qu'on est ensuite orienté par défaut, c'est-à-dire dans des voies où il reste des places en fin de troisième, eh bien, c'est très difficile. Alors, c'est possible, hein, mais c'est plutôt difficile de récupérer ensuite une voie d'orientation dans laquelle on se sentirait mieux.
Et toi, Théo ?
Alors, je dirais par rapport à la vidéo déjà que... Enfin, pas à la vidéo, pardon, à l'interview précédente, que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On voit que le parcours que les personnes ont pu faire n'est pas forcément le parcours d'études auquel on s'attend pour atteindre un métier spécifique ou quoi que ce soit, mais qu'elles ont trouvé un domaine qui leur plaisait et qu'elles en ont fait leur métier. Ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, comme on a vu l'exemple avec Madame Spataro. Ensuite, par rapport à mon métier, donc je suis AED, autrement dit surveillant, ou pion, si les élèves continuent d'utiliser ce terme-là aujourd'hui. Et je fais des études de droit à côté, je suis en deuxième année. Ce métier en tant que surveillant, ça consiste surtout à maintenir un lien entre les professeurs et les élèves. On est là, on essaie d'être le plus présent possible pour les élèves, même si parfois ils ne s'en rendent pas forcément compte, parce qu'on est plutôt... parfois on est dans notre rôle de surveillant, donc on va plutôt tenir avec le professeur si on voit que l'élève a tort, ou inversement si c'est le professeur qui a tort. Bien sûr, on gardera toujours en face une notion de neutralité pour maintenir un équilibre. Mais derrière, on essaiera toujours d'agir en sorte pour que les choses se passent le mieux et qu'il n'y ait pas d'injustice, ce qui peut être souvent ressenti par les élèves. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Après, qu'est-ce que j'aime dans ce métier ? C'est vraiment enrichissant parce qu'on a des discussions avec les élèves ou même juste des situations qui sont parfois pas évidentes à résoudre. Et on fait de notre mieux pour y arriver, même si des fois c'est peut-être maladroit ou qu'on n'est pas forcément... entendu de la bonne manière par les élèves ou d'autres personnes, la famille, le personnel, voilà. Après, il n'y a pas vraiment de choses que j'aime pas à proprement parler dans ce métier. C'est surtout qu'il y a des situations qui sont plus agréables que d'autres. Ce que je vois surtout, c'est que c'est parfois dommage. On voit qu'il y a des élèves qui veulent y arriver et qui manquent par exemple d'accompagnement ou d'aide par la famille ou par le corps enseignant. Mais nous, il y aura toujours une personne à qui ils pourront se raccrocher. Et c'est juste ça dont il faut qu'ils se rendent compte. Mais on a aussi la situation inverse où on a des élèves qu'on accompagne beaucoup et qui ne s'en rendent pas compte justement. Et qui décrochent, soit parce que ils n'ont pas envie ou ils se sentent incompris, mais comme je le disais précédemment, il y aura toujours une personne qui sera là pour les écouter, les accompagner du mieux que possible pour les aider à s'en sortir. Voilà. Après, concernant les conseils que j'ai à donner pour trouver son orientation, je dirais avant tout qu'il faut que les élèves ou toute personne trouve un domaine qui lui plaît pour faire le métier qui lui plaît et que le métier auquel on pense aujourd'hui ne sera pas forcément celui qu'on fera demain. Il faut aussi savoir se donner les moyens. Par exemple, je travaille pour payer mes études. Après, les élèves, là, aujourd'hui, qui sont en troisième ou au collège, en tout cas, sont encore jeunes, en tout cas pas assez vieux pour travailler, mais il faut se donner les moyens, donc... Si vous avez une idée de métier ou quoi que ce soit, il faut juste travailler et faire en sorte d'y arriver. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'études inférieures à d'autres, ni de métier inférieur à d'autres. Il y en a qui sont différents ou quoi que ce soit, mais que vous passiez par un CAP, un bac pro ou des études, un bac général, tant que vous arrivez à ce que vous voulez faire et que ce domaine vous plaît et que... comme disait Madame Spataro, vous vous levez le matin et faites un métier qui vous plaît, c'est le principal.
Bon, merci. Nous allons maintenant prendre quelques questions de la classe.
Je m'appelle Romane et je voudrais te demander, Théo, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études de droit ?
Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des études de droit ? Déjà, il faut savoir qu'au collège, j'étais un bon élève, mais qui avait des facilités. Donc, j'ai jamais. C'est pas du tout l'exemple à suivre. Mais j'ai jamais spécialement travaillé plus que ça, parce que J'y arrivais assez facilement. Et puis à partir du lycée, donc j'ai fait un bac général, ça a commencé à se corser évidemment. Et là, j'ai dû me mettre au boulot, mais j'ai fait un bac scientifique, mais je n'avais pas dans l'idée de faire une fac de droit à ce moment-là, jusqu'au choix à la terminale, qui se fait en terminale, quoi. J'étais plutôt sur le domaine médical, et puis encore en troisième, je suis passionné de cuisine, j'avais une idée de faire un bac pro cuisine. Donc finalement, je me suis retrouvé en seconde générale et j'ai fait un bac S. Et le moment venu, je me suis rendu compte que mon parcours donc en scientifique n'était pas forcément celui auquel que je voulais poursuivre, même si jusque-là, c'était ce qui me guidait un petit peu. Et donc, j'ai choisi le droit au dernier moment parce que je me suis rendu compte que j'aimais plus les lettres que les sciences, bizarrement, et bizarrement par rapport à mon parcours. Et qu'est-ce que j'aime en droit ? Il y a une certaine logique qu'on retrouve, et puis une réflexion qui est assez intéressante, qui demande parfois une maturité et un développement, et c'est vraiment ce qui est intéressant.
Merci. Et maintenant, nous allons accueillir sur ce plateau Gabriel et Jade, qui sont allés à la manifestation pour le climat. Et elle voudrait nous en parler. Prenez place.
Bon, on est allé le vendredi 15 mars. On a participé à la marche pour le climat qui était de 14h à 16h30.
Donc tous les vendredis, il y a les lycéens qui organisent des grèves, des marches et des rassemblements qui concernent tout le monde. Ce sont des manifs ouvertes à tous et assez encadrées, donc il n'y a pas de casse ni de violence. Il ne faut pas hésiter à aller manifester car il n'y a pas de casse à chaque fois. Et c'est souvent, il y a les médias qui mettent en avant les casseurs qui viennent pour profiter de la situation. Et c'est souvent pour nous dissuader de manifester et pour qu'on reste à notre place.
Du coup, vous devrez vous sentir concernés, enfin nous tous, par ce problème. Et on devrait participer à ces manifestations parce que c'est nous et les générations futures qui allons subir les conséquences de ce problème. Par exemple, il y a la fonte des glaciers, la sécheresse des zones équatoriales et bien d'autres choses. Souvent, les gens disent que ça sert à rien d'aller manifester, mais bon, si tout le monde commence à dire ça, plus personne ne va rien faire et évidemment, rien ne va changer.
Dans le passé, il y a beaucoup de femmes qui se sont battues et ont manifesté pour avoir plus de droits, être indépendantes et libres, et ça n'a pas servi à rien. C'est grâce à elles que les femmes ont maintenant le droit de voter.
Du coup, il faut savoir donner son avis en allant manifester et montrer son désaccord et pas se contenter de la merde qu'on nous donne.
Parce que sinon, nous sommes juste des marionnettes bonnes à obéir et on va tous crever sur une planète que nous avons détruite.
Merci Gabriel et Jade pour ce retour sur la manif pour le climat. Il est maintenant l'heure de passer à la dernière partie de notre émission et c'est Kylian et Adem qui vont parler de l'égalité homme-femme au collège. Venez prendre place.
Bonjour à tous, nous avons choisi d'inviter Soline et Yves qui sont surveillants dans notre collège pour échanger tous ensemble sur la question sur l'égalité entre les filles et les garçons.
Alors avant de faire circuler les micros et de poser quelques questions à nos invités, nous allons écouter un extrait d'une interview que nous avons réalisée dans notre classe.
Ce que je trouve le plus révoltant, c'est au niveau des salaires. Il n'est pas le même avec les hommes et les femmes. Les femmes, elles ont, je sais pas combien, 20% en moins que les hommes et ça devrait pas être normal, je trouve.
Je pense qu'il n'y a pas assez de femmes qui travaillent à des postes de responsabilité.
Qu'il n'y a pas assez de femmes dans la politique.
Par exemple, moi j'ai un frère et il va être beaucoup moins protégé que moi. Par exemple, il est plus jeune que moi et il fait des trucs qu'à son âge, moi j'avais pas le droit de sortir comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi de l'inégalité entre filles et garçons à ce moment-là.
Les hommes, des fois, quand des filles se baladent dans la rue, il y a des fois il y a des hommes, ils les sifflent comme ça. Alors que pourquoi nous on le fait pas ? Faut au moins un peu de respect, au moins, un peu de respect entre les hommes et les femmes.
Je pense que les femmes sont moins respectées que les hommes dans la société. Par exemple, le fait qu'elles doivent être minces et tout, alors que les hommes, on s'en fout un peu en fait. Alors que les femmes, elles doivent être toujours parfaites et tout, enfin voilà quoi.
Par exemple, la danse, on a tendance à dire ouais, c'est pour les filles. ou je sais pas, par exemple le rugby pour les hommes ou je sais pas, des choses comme ça. Et du coup, en fait, c'est pas vrai. Et,
il faudrait que les femmes ils pratiquent tous les sports sans se faire de peur et se dire comme quoi ils vont être toutes seules ou des choses comme ça.
On en parle, il y a des moments en cours, mais pas beaucoup, je trouve. C'est minime, vraiment minime. On n'en parle pas du tout, presque.
Oui, en parler davantage.
On pourrait faire des cours de MC pour ça, par exemple.
Pour parler de l'égalité homme-femme dès le plus jeune âge. Au moins, les petits comprennent dès le début.
Mais je me rappelle, dans mon ancienne école, j'ai vu un truc qui était plutôt sexiste par rapport à notre prof de PS. On faisait de la muscu, il nous disait, les garçons, vous avez le droit de porter jusqu'à 1 à 4 kilos. Nous, les filles, on était contentes, on aurait pu faire la même chose. Il nous dit, non, les filles, c'est trop lourd pour vous, vous allez faire de 1 à 2 kilos. Nous, on lui demande pourquoi, on peut très bien porter ça, nous, ça fait parce que vous n'êtes pas assez fortes.
Bah, moi, je vais prendre un exemple. En début d'année, là, il y a une troisième qui est venue avec un short. Donc, après, je peux comprendre qu'au collège, on n'ait pas forcément besoin de mettre de short parce qu'on est dans un établissement scolaire. Mais la remarque, ça dérange les garçons, je trouve ça très, très déplacé, en fait, parce que eux, ils ont droit, même si c'est moins court, ils ont le droit de mettre des shorts, mais c'est-à-dire que nous, non.
Tu vas nous parler du dessin que tu as fait et qui représente la cour de l'école. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce dessin ?
Oui, c'est une cour de récré avec les emplacements des garçons et des filles.
Et de partout, en fait, on est tous mélangés, il y a des filles et des garçons de partout. Après, des fois, les garçons, ils restent ensemble et les filles restent ensemble, mais sinon, on est à côté et...
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mixité. Moi, personnellement, je trouve que des fois, il y a des mix, mais des fois, il y a beaucoup aussi de groupes de filles et de garçons. Et je traîne des fois avec les filles, mais quelquefois, je suis un peu avec les garçons, mais pas très souvent.
En fait, moi, je pense que c'est pas vraiment vraiment de l'inégalité, parce que chacun choisit avec qui il traîne, alors que, par exemple... Je sais pas, pour le salaire, on peut pas changer ça comme ça. Alors dans la cour, si un jour j'ai envie de traîner qu'avec des filles, je vais traîner qu'avec des filles. Si j'ai envie de traîner qu'avec des garçons, je vais traîner avec des garçons. Ça dépend vraiment des personnes.
Alors Soline et Yves, que pensez-vous de ce qu'on vient d'écouter ?
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'on vient d'écouter. Ce qui ressort beaucoup, c'est des questions de stéréotypes associés au sexe ou plutôt associés au genre. Des questions d'égalité, de stéréotypes associés aux filles et aux garçons. Je trouve que c'est des réflexions qui sont très intéressantes. Et je trouve ça important que cette réflexion ait sa place ici, aujourd'hui.
Mais moi, je pense que tout d'abord, il faut savoir qu'on n'est pas femme, on le devient. C'est-à-dire que votre place dépend que de vous. C'est-à-dire aujourd'hui, être femme, je trouve qu'il faut se battre, certes, comme tout le monde. Hein. Faut pas se limiter au fait que, voilà, moi je suis une fille, donc du coup, si je traîne avec les garçons, je serai traité, je vais être qualifié de... Mais aujourd'hui, je trouve que la cohésion dans le collège, il faut se dire d'abord, nous sommes tous du même collège. Il n'y a pas une histoire de dire je suis une fille, je suis un garçon. Non, on est tous des êtres humains. Et moi, j'ai remarqué surtout que les petits groupes qui se forment, c'est les filles par-ci, les garçons par-là. Et ceux qui se rapprochent les plus, c'est les sixièmes. Hein. Parce que moi, je trouve que les troisièmes, vous qui faites ce reportage, en fait, c'est vous d'abord qui devrez donner l'exemple. C'est-à-dire montrer qu'il y a une cohésion. On est tous, comme je vous ai dit, on est tous humains. Il faut s'accepter comme ça. Les différences, il faut passer dessus. De toute façon, on ne vient pas, chacun vient d'horizons divers. Hein. On a tous nos cultures, oui, qui des fois, parce que moi j'ai vu par rapport à ce qu'on a... Il y a eu un temps, on a abordé un sujet sur le sida. J'ai entendu des garçons me dire, non, ce n'est pas possible, moi je ne peux pas participer à ce cours. Et des filles qui disent non, ben moi j'ai honte, oui, parce que ça ne se fait pas chez nous, on n'a pas droit. Mais oui, aujourd'hui, quand on accepte, d'intégrer un groupe, c'est-à-dire un système mis en place, c'est-à-dire c'est pour tout le monde. Il faut l'ouverture d'esprit. Parce que dans la rue, vous ne traînez pas qu'avec des garçons, qu'avec des filles. Et le respect, je pense que le respect est mutuel. Et il faut s'accepter comme ça. Essayez plus de discuter entre vous. Et par rapport au sport, j'ai la question de Enzo Trocéchec, qui était de dire que il y a des filles qui font, il y a des sports pour les garçons, des sports pour les filles. Ben non, on a des équipes de rugby de filles, on a des sports de rugby de garçons, on a des footballeuses, des footballeurs, on a des basketteuses, des basketteurs. En fait, et la danse, moi je connais des filles particulières. Bon, moi j'ai fait de la danse. Il y a des filles qui dansent mieux que moi, qui font du hip-hop. On a des b-girls, on a des b-boys. Donc, c'est-à-dire que faut pas non plus rester dans sa bulle et penser qu'il va en cours de PS, voilà, moi je fais du basket, les filles, non. Ben, si faire du basket lui plaît pas, elle fera pas de basket, quoi. Je trouve que voilà, c'est juste ça, faut pas trop non plus tourner autour, quoi.
Alors, d'après votre expérience, quels sont les problèmes de discrimination que les filles et les garçons rencontrent au collège ?
Je pense que il y a des attentes différenciées concernant les filles et les garçons de la part déjà entre vous et également de la part du personnel, qu'on le veuille ou non. Et je pense que c'est important qu'on réfléchisse on a des attentes différenciées selon le genre et selon le sexe. Par exemple, on va plus facilement tolérer aux garçons le fait de chahuter dans la cour de récréation, enfin ce genre de choses.
Oui, mais il faut comprendre aussi que voilà, les garçons et les filles, oui, nous sommes tous des êtres vivants, hein, mais il y a des aptitudes qu'on n'a pas tous en fait. Les garçons, nous savons tous que les garçons, ils vont dans tous les sens. Les filles, elles sont un peu plus posées. Et ça se remarque, hein, parce que dans les études, ceux qui vont très très loin, qui ont plus de diplômes, c'est les filles. Les garçons, très vite, ils passent à autre chose. C'est-à-dire que, oui, et quand on parle de protection des filles par rapport aux garçons, aujourd'hui, nous faisons face à des fléaux dans cette société qui atteignent plus les filles que les garçons. Par exemple, on va voir dans la rue des questions de...
Je peux le dire ? Moi, je me permets là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que là, on est en train de naturaliser un peu une question qui, en fait, est sociale. Donc il faut faire une différence entre le sexe biologique et le genre qui correspondent aux stéréotypes et aux attentes qu'on place sur les filles et les garçons. Et voilà, cette question de vulnérabilité de la femme, pour moi, elle est pas naturelle, elle est construite. Et c'est justement à cet âge-là, donc quand vous êtes de jeunes adultes en construction, qu'il faut se rendre compte de ça, que c'est pas des différences qui sont naturelles, qui sont biologiques, qui sont actées, mais qu'elles sont construites et qu'il faut en parler, il faut y réfléchir. Et voilà, les femmes ne sont pas plus vulnérables que les garçons. Que c'est socialement construit et que justement on peut agir là-dessus.
Oui, c'est bien de défendre. Ouais. Mais quand tu me parles de différence entre, quand tu dis différence, question de sexe, et cette différence qui est peut-être sociale, mm-hmm. qui s'est construite, et que tu parles de différence, ça sous-entend qu'il y a quelque chose entre les deux sexes qui n'est pas forcément, ne peut être égal, on est d'accord. Parce que moi, je trouve que, oui, se battre, prendre sa place, je suis d'accord. Hein. Moi, je lutte pour la femme, je suis d'accord. Mais c'est que j'aimerais juste qu'aujourd'hui, que cette jeune génération, oui, certes, c'est à cette génération, surtout, de poursuivre cette lutte, de pouvoir maintenir l'égalité, établir l'égalité entre l'homme et la femme. Mais oui, quand on parle de jeu dans la... des attitudes de protection familiale, de tout ce qui se passe autour, aujourd'hui, les filles sont plus encadrées parce que, ce que je te dis, en fait, on essaie de faire face en amont par rapport à ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on va plus voir trois filles qui se promènent dans la rue être harcelées par des jeunes garçons que de voir des jeunes garçons dans la rue être harcelés par un groupe de filles. C'est ce que je veux te dire. Oui, aujourd'hui, oui, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut faire face à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fille qui... en fait, elles ont conscience aujourd'hui que cette société est comme ça et qu'il faut lutter pour se faire respecter et prendre sa place.
Mais justement, je pense que la sphère scolaire, c'est un bon lieu pour apaiser un peu ces relations. Et voilà, je ne sais plus qui parlait des vêtements, du short par exemple. Est-ce que finalement la solution, c'est d'interdire aux filles de porter un short, ou est-ce que c'est plutôt d'éduquer les garçons au fait qu'une fille peut porter un short et que voilà, elle peut montrer des parties de son corps, elle peut voilà s'habiller de la manière dont elle l'entend. Et je pense que c'est plus c'est dans la sphère scolaire qu'on peut aussi réussir à apaiser les tensions que tu évoques, et qu'on éduque les deux sexes au fait que voilà, les femmes sont pas forcément vulnérables, ont le droit de s'habiller comme elles l'entendent.
Ouais, voilà. C'est possible, mais en fait, oui, comme tu le dis, hein, c'est la société surtout qu'il faut éduquer, hein, dans ce sens, en fait. Il faut qu'on prenne conscience que les choses peuvent évoluer et qu'on peut changer.
Le moment est venu de conclure cette émission et de dire merci à nos invités pour s'être prêtés au jeu des questions et des réponses.
Merci à Madame Robin, notre professeure de français au collège Jules Vallès, à La Source et à la web radio La Voix des gens, pour nous avoir permis de réaliser cet atelier.
Merci aussi à David, Aya et Khaled qui ont assuré la technique pour cette émission.
Vous pouvez retrouver cette émission et tous nos reportages et interviews en podcast sur le site www.lavoisdesgens.fr. Au revoir et à bientôt.